Bienvenue au Polysécur, épisode spécial. C'est vraiment spécial, parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas passé cette personne sur le podcast, parce qu'elle a comme disparu. Hein, Nicolas?
Je suis de retour.
Comment vas-tu?
Ça va super bien, et toi, je suis content d'être là.
J'suis ouais, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait ça, puis on a eu un grand moment de remettre nos nouvelles à jour, parce qu'on ça fait vraiment longtemps. Et d'ailleurs, pourquoi ça fait longtemps, d'ailleurs, l'intérêt du sujet?
Tous les podcasts qu'on a fait ensemble avant, je travaillais chez Google et là, je parle au passé parce que je ne travaille plus chez Google. J'ai changé. Il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Une offre que dans une carrière, tu ne peux pas refuser. Ça m'est arrivé cet été. Puis c'est pour ça qu'on n'a pas pu se parler parce que j'ai opéré un changement d'emploi. Je travaille maintenant chez Palo Alto Networks après un passage de 5 ans chez Google. J'ai fait un changement cet été. C'est pour ça qu'on ne s'est pas parlé parce que je devais comprendre mon nouveau travail, comprendre ma nouvelle réalité, essayer de gérer tout ça.
Notamment, puis ce qui est toujours drôle là-dedans, parce que quand tu étais à Québec, j'étais à Montréal. Quand j'étais à Montréal, tu étais à Québec. Fait qu'on vraiment a eu une espèce de glitch, de timing qui était complètement hors de ce monde.
Hey, c'est pas parce qu'on n'a pas essayé.
On a vraiment essayé.
On a essayé, là. C'était à tous les mois, à peu près. Je me rappelle, je t'écrivais, tu m'écrivais. Là, t'es-tu là? Non, je suis pas là. Je voyage. Là, tonton, t'es pas là. C'est compliqué.
Ça a été vraiment tough. Mais qu'est-ce qui a amené ce changement-là? Un minute, tu m'as parlé comme de 20%, machin. Puis pourquoi t'as fait la bascule d'un vers l'autre?
Bon, OK. Je vais rewinder un petit peu. On avait déjà fait un podcast ensemble sur les 20%. Quand j'étais arrivé chez Google, il y a 5 ans, 2020, j'avais l'imposter syndrome là au bout parce qu'on a été 10 000 à être embauchés en même temps que moi au mois d'août 2020. Fait que là, quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais là? Le processus d'entrevue chez Google, tu sais, t'es entouré de monde ultra bon. Fait que là, comment tu fais pour te démarquer? Fait que là, ce que j'avais fait, c'est, comme je connaissais Palo de mon ancienne vie, avant d'être chez Google, quand j'étais chez les partenaires, ben, un moment donné, j'ai vu un courriel passer qui disait, hey, on va lancer un nouveau produit, Cloud IDS. Là, je me suis intéressé à ça. J'ai écrit au PM. J'ai dit au product manager, « Hey, moi, j'ai de l'expérience en masse avec Palo. T'as-tu besoin d'aide? » Là, j'ai créé mon premier 20% avec ça, un 20% chez Google, juste pour rappeler aux auditeurs c'est quoi. C'est que chez Google, dans la culture de la compagnie, t'as le droit de passer 20% de ton temps à faire quelque chose d'autre que ta job, pour autant que ça bénéficie quelqu'un ou que ça bénéficie l'humanité. Les 20%, c'est très populaire chez Google. C'est ça qui a mené à la création de Gmail, en passant. Donc, moi, j'ai décidé de me joindre un 20% chez Google avec l'équipe qui s'occupait de Cloud IDS. Plus tard, c'est devenu, mon 20% s'est transformé, a été plus aligné avec l'alliance Palo Alto et Google parce que encore aujourd'hui, Palo Alto est un des plus gros partenaires commerciaux de Google. Puis on a des produits ensemble. Fait que pendant 4 ans, j'ai fait mon 20% avec l'équipe de Google. Avec l'équipe de Google Palo.
Et ce qui a amené justement au fait que, comme tu as touché à Palo pendant 4 ans, une certaine visibilité qui t'a amené un peu ailleurs.
Écoute, c'était le fun, là, parce que là, tu t'en rappelles, on s'est vu à Google Next une couple de fois. On avait enregistré un podcast à Google Next. C'était vraiment sharp.
Plus qu'un, d'ailleurs.
Ouais. C'était fort.
T'en rappelles pas, là, je suis comme un peu...
Oui, c'était vraiment sharp. Là, je présentais à Google Next avec Palo sur des produits qu'on lançait conjointement ensemble. Fait que bref, ça a été ça, mon 20% pendant 4 ans. À un moment donné, j'avais fait le tour du sujet sur ceci. J'avais essayé d'avoir un poste dédié à ça à l'intérieur de Google. Ça n'avait pas marché. Puis, j'ai décidé de switcher pour Google Cloud Security à la place. Donc, l'acronyme GCS. Donc, c'est tout ce qui est Chronicle, Mandiant, Chronicle SecOps, le nouveau nom, Chrome Enterprise. Donc, j'ai fait les derniers 6 mois de ma vie chez Google à l'intérieur de GCS, de l'équipe de Google Cloud Security. Un jour, je reçois un texto de la personne qui gère l'alliance Google et Palo qui me dit « Hey Nick, on a une ouverture, on aurait besoin de quelqu'un qui prenne en charge tout l'enablement technique pour les cloud providers chez Palo Alto. Ton nom est ressorti. Ça te tente-tu de convertir ton ancien 20% en 100% chez Palo. C'est ça qui s'est passé. L'opportunité est incroyable pour faire ça. Puis la raison, c'est après 6 mois chez Google Cloud Security. Tu sais, Google Cloud Security, les produits sont vraiment bons. Ils ont un très bon SIM source et la technologie est très bonne. Mais à toutes les fois que je travaillais, à chaque semaine, j'avais tout le temps l'AI dans la tête. Puis au niveau de la sécurité de l'AI, il y a des choses qui manquent dans le stack de Google. Puis pas par rapport aux produits de Google, il n'y a aucun enjeu là-dessus. C'est plus globalement, je t'en ai parlé un peu avant qu'on commence le podcast, il y a des angles morts qui ne sont pas couverts. Puis quand l'offre de Palo Alto est arrivée, je me suis dit, hey, ça serait bon parce que je pourrais continuer de travailler avec Google. Google, c'est une compagnie que j'adore. Ils ont des bons produits. J'aime beaucoup ça. Il y a de la croissance avec l'AI en ce moment. Mais là, je pourrais continuer de faire ça et être ultra complémentaire avec l'offre de Palo pour toute la partie d'AI que Google couvre pas.
Très intéressant. J'ai comme un blanc parce que c'est comme. J'étais comme ébloui par tout ça. Effectivement, ça l'amène, cette transition-là. C'est des points de vue technologiques, puis tu l'as bien mentionné. C'est pas parce que les produits Google sont pas bons, mais il n'empêche que les pure players, puis ça, moi, je suis beaucoup, très favorable aux pure players, que Palo est un pure player dans cet univers-là, a toujours un edge par rapport à un généraliste comme Google peut être, même si dans certaines phases, ils sont très bons globalement, mais la spécialité n'est pas tout à fait là. Donc, c'est peut-être là, justement, que tu viens rejoindre ta passion qui est un peu plus, justement, le 100%. Là.
Parce qu'avant d'être dans GCS, tu sais, moi, j'étais un généraliste, j'étais un customer engineer généraliste. Donc, de 2020 à début 2025, ce que je faisais, c'était ce que les clients voulaient faire, me demandaient de faire. C'était beaucoup de l'AI. Donc, j'ai appris énormément. À toutes les fois que je regardais ça, je me disais, oh wow, c'est incroyable ce qui s'en vient en sécurité de l'AI. J'ai fait une couple de présentations. J'ai parlé à Secure d'ailleurs là-dessus. C'est un sujet qui me passionne vraiment. Mais il y a la réalité, c'est que les clients, là, les personnes qui utilisent la technologie, ben, ils ne sont pas toujours juste sur Google. Ils ont des workloads on-premise. Ils ont des problèmes. Ils ont des limites. Où est-ce qu'ils doivent utiliser la technologie sur AWS, sur Azure, dans plusieurs sortes d'environnements. C'est pas vrai qu'ils vont toujours être dans un cloud provider. Puis moi, quand je parlais à des clients puis qu'ils me racontaient ces choses-là, je me disais, hey, qu'est-ce que ça serait hot comment on pourrait compléter l'offre de Google avec d'autres choses. C'est exactement ça qui est l'alliance entre Google puis Palo. Fait que quand on m'a proposé à Enix, attends-tu d'y aller? Ben oui, c'est sûr. Puis en plus de ça, dans mon nouveau rôle chez Palo, en gros, là, mon rôle chez Palo, ce que je fais, c'est que je m'organise pour faire tout l'enablement technique, c'est-à-dire enabler les gens. Donc, je ne suis plus dans les ventes. C'est terminé cette partie-là dans ma vie. Donc, je n'ai plus de quota. Merci, alléluia. Donc, j'ai plus cette pression-là. Puis ma job, c'est vraiment de m'assurer que les gens comprennent. Donc, je remets mon chapeau de professeur. Tu sais, je t'avais déjà dit que j'enseignais un peu à McGill le soir. Ben là, c'est comme faire ça, mais par rapport à la technologie de Palo avec les cloud providers. Parce que dans mon nouveau rôle chez Google, chez Palo, je m'occupe des 4 cloud providers. Google est le principal parce que c'est un des principaux partenaires. Donc, on est de loin. L'alliance entre Palo et Google est très forte. Tous les produits de Palo Alto roulent sur Google en ce moment. C'est tout public. Il y a eu des annonces là-dessus. Mais malgré ça, il y a quand même beaucoup de traction avec AWS, beaucoup de traction avec Azure et beaucoup de traction avec OCI, avec Oracle. Donc, mon rôle, c'est de m'assurer que les gens comprennent c'est quoi la technologie, comprennent comment l'adopter. Je participe à des conférences, je participe à des formations. Donc, je suis en charge de monter des architectures de référence, monter des démos, des tests, donc faire des webinars, aller parler dans des conférences. Donc, c'est plein d'affaires que j'aime faire, que j'adorerais faire pendant mon 20%. Et là, tu peux comprendre que quand Mounich, mon boss, il m'a appelé pour me dire...
C'est 100%, ça devient, c'est comme tu mentionnais, c'est 100%, c'est rendu 100% de ton travail. Et je dois imaginer que le retrait de la pression de la vente doit... être un relief, là, un allègement assez énorme parce que là, tu es capable de te concentrer sur du contenu.
Oui.
Mais pour la valeur du contenu et non pour arriver avec un objectif de vente, même si la valeur du contenu que tu fais pourrait quand même aider les ventes, mais pour au moins que les gens comprennent la valeur réelle des produits que vous avez qui ont une très grande importance. Si Google a décidé de faire une alliance avec Palo Alto, il y a une raison réelle qui oui. sert à ça, pas parce que c'est beau, mais parce qu'il y a une valeur technique à ça. Là.
Ah oui, c'est clair. En ce moment, la majorité des produits de Palo Alto roulent sur Google. Donc, il y a même des produits OEM, donc on pourrait appeler ça du white label. Je ne sais pas, c'est quoi le terme français pour OEM?
Je ne sais pas plus. Okay, celle-là, je n'ai jamais...
Il va falloir chercher ça, s'il y a des auditeurs qui peuvent nous le dire. Il y a des produits OEM de Palo chez Google. Donc, quand tu utilises Cloud IDS, quand tu utilises Cloud NGF Enterprise, NGFW Enterprise, ben dans les faits, c'est des machines de Palo en dessous. Puis, tu sais, il y a constamment de la R&D qui est faite entre les deux compagnies. Donc, l'alliance est très, très forte. Puis là, maintenant, moi, ma job, c'est de m'assurer que les équipes chez Palo et les équipes de Google, ben, ils comprennent c'est quoi cette valeur-là conjointe entre les deux produits. Il y a des produits dans l'offre qu'il y a littéralement des features qui ont été déployées de part et d'autre pour ajouter de la valeur. T'sais, on pense, mettons, à l'offre de SASE pour l'accès. Tous ceux qui utilisent Prisma Access aujourd'hui, qui est notre outil de SASE, ben, peut-être qu'ils ne savent pas, mais ils traversent Google, ils traversent l'infrastructure de Google à toutes les fois qu'ils se connectent en VPN, même si leur workload, même si leurs data centers sont on-premise, même si leurs data centers sont sur AWS, ben, le gateway VPN se termine sur le réseau de Google. Si jamais la cible qu'ils essayent d'atteindre est sur Google, on est capable de pairer le réseau Prisma Access nativement avec Google pour accéder directement le workload. On fait ça avec NCC, Network Connectivity Center. C'est un feature à l'intérieur de Google Cloud qui permet de pairer un VPC avec une instance Prisma Access. Donc, il y a des choses comme ça que mon équipe, maintenant, on est responsable de faire ça. T'sais, mon équipe a fait essentiellement quatre choses. On fait de l'intégration de produits, c'est-à-dire on s'arrange pour que des choses comme ce que je viens d'expliquer fonctionnent. La deuxième chose, c'est qu'on crée les sales plays, c'est-à-dire notre job, c'est de s'assurer que les équipes de vente soient capables d'aller en avant des clients, d'exprimer cette valeur-là, d'être capable de dire « Ah, voici ce que ça fait, voici c'est qui les meilleures personnes qui vont l'acheter, voici la valeur du produit. » Puis après, ben, on fait de l'enablement. Puis ça, de l'enablement, c'est comme je te parle, c'est on s'en va voir les gens, on s'en va voir les clients, on s'en va voir dans des conférences, on s'en va à Google Next, on s'en va dans ORSC. Puis on propage la bonne nouvelle. Là, on explique essentiellement qu'est-ce que ça fait. Puis on s'assure que les gens aient tous les outils pour pouvoir le faire, puis pouvoir l'allumer. Puis à la fin, mais aussi, ben, on supporte les équipes de vente, veut pas. Fait que j'ai quand même une petite partie de moi, je te dis, qui reste un petit vendeur dans l'ombre. Mais c'est pour ça que ça me manque pas tant. Parce que je le fais au quotidien, mais c'est vrai que j'ai plus de quota. Ça la disparition.
Ah, ça change tout. Puis c'est intéressant parce que c'est toi qui m'as fait connaître les Google Next, notamment des conférences techniques. Et je ne connaissais pas cet angle-là, notamment des grands cloudeurs. Mais d'arriver dans ces environnements-là où on ne se fait pas servir des pitches de vente, mais on se fait servir de la théorie par rapport à ça. Et au-delà du fait que tout ce que les sessions que j'ai assistées étaient très colorées Google, en l'occurrence. Le degré de connaissance que j'allais chercher là est impressionnant et ça me sert encore de maintenant d'avoir vu ces technologies-là en application. Donc, c'est un peu dans le même univers dans lequel tu rates de cette capacité technique de voir les choses et les capacités capables d'aller chercher la pleine puissance de ces outils-là.
Clairement, écoute, ces conférences-là, ça, c'est vrai pour tout le monde. Là. C'est pas juste vrai pour Google. Là. C'est vrai pour celle d'Azure, puis c'est vrai pour celle d'AWS aussi. Quand on se donne la peine d'aller dans les sessions techniques avancées, puis pas juste rester sur le keynote ou aller sur l'expo floor.
Mes oreilles ont saigné, là.
Il y en a, c'est tough. Il y en a, là, si t'as le malheur de regarder ton téléphone.
J'ai fait une fois. je pense que c'est le niveau 3, les 300, je pense, chez Google. C'est genre, j'ai reçu un message, j'ai quitté les yeux la présentation, je descends. Là, on était comme rendu complètement dans un autre univers. Je fais comme, ah, oh, shit, man, je suis comme,
ah ouais,
j'ai tout perdu, là.
C'est tough. Puis il y en a du bon contenu. Là, tu sais, ce qui est le fun de ces conférences-là, c'est ben t'as des PM, des produits, t'as du thought leadership à côté. Tu vois vraiment la direction que la technologie prend. T'es capable d'aller parler avec ce monde-là. Fait que tu sais, moi, partie de mon nouveau rôle chez Palo Alto, ben c'est exactement d'organiser ces affaires-là. Fait que tu sais, comme en ce moment, Google Next, c'est dans quelques mois, ben on est déjà en train de planifier, ben c'est qui va parler, c'est qui. Il a fallu publier la liste des speakers, tu sais. Fait qu'on est en train vraiment d'organiser un menu pour s'assurer qu'on ait ce niveau-là, puis que les gens qui assistent à ces conférences-là, ils sortent de là avec plein d'idées dans la tête, puis qu'ils aient appris quelque chose. Tu sais, le but, oui, tout le monde veut vendre. T'sais, c'est une organisation de vente, veut pas, il y en a. Là. Puis ça coûte très cher à des organisations comme la mienne d'être présent là. Mais à la fin de la journée, c'est le contenu qui est important. Tu veux que les clients ils sortent de là avec des idées, tu veux qu'ils sortent de là en ayant appris quelque chose. Puis on prend ça vraiment, vraiment très au sérieux. Puis tu sais, c'est un peu ma responsabilité de m'assurer qu'on trouve les bons speakers, qu'on a les bons sujets, puis s'assurer que d'être en ligne avec aussi le cloud provider. Parce que là, je me ramasse, moi, je suis responsable des quatre. Fait que ça veut dire que l'équipe d'architecture que je gère, parce que j'ai trois employés dans mon équipe, quatre avec moi, on couvre tous les cloud vendors. Donc, il faut être au courant de ce qui va être annoncé, il faut être au courant de leur stratégie. Parce que autrement, on ne sera pas capable d'articuler la valeur pour le client. Puis là, on va arriver et on va être complètement champ gauche sur le sujet. Fait que, tu sais, ça fait partie de mon quotidien de parler avec les équipes d'engineering de toutes les clouds en ce moment, s'assurer, OK, mais qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui va être annoncé? Puis qu'est-ce que Palo pourrait faire pour améliorer soit ses produits, puis travailler conjointement avec le cloud dans le but d'amener quelque chose de inédit, quelque chose d'extraordinaire au client, pour régler des vrais problèmes.
Oui, puis ces environnements cloud-là, puis je trouve ça intéressant que tu ramènes comme ça, ils ont un, leur écosystème qui leur sont spécifiques, et ça vient racheter une valeur sur l'écosystème. On va sortir du M365, on va aller vraiment sur Azure, on va aller sur GCP, on va aller sur AWS, où on doit finalement se faire un data center, le nôtre, qui est dans ces environnements-là, conjointement avec des choses qu'on a sur site, toute la grande architecture. Fait que c'est sûr qu'on veut protéger ces payloads-là qui sont dans le cloud, qui ont jusqu'à un certain point une certaine conception dans un data center qu'on a de toute façon, parce que c'est un peu ça aussi. Et ces équipements-là ont de l'importance. Et comme tout est du logiciel maintenant, parce qu'on est vraiment software defined network, on est vraiment software defined data center, tous ces éléments-là doivent se matérialiser avec la compatibilité avec ces quatre grands joueurs-là qui ont leur particularité, tout ça, puis de jouer là-dedans, c'est fou. Là. C'est un terrain de jeu qui est beaucoup plus grand que ce que tu avais avant. Là.
Ah, c'est clair. Puis, tu sais, en plus, là, avant, j'étais très, très Google. Je suis encore Google. C'est mon principal, tu sais. Oui, j'ai des personnes dans mon équipe qui m'aident avec les autres cloud providers, mais tu sais, pour Google, c'est quand même moi qui dois porter le flambeau. Mais ça me permet de voir aussi qu'est-ce qu'on fait avec les autres. T'sais, ça me permet de voir, mettons, pour l'AI. Puis, tu sais, l'AI, là, j'en parle beaucoup. Je vais te donner un exemple. Récemment, on a annoncé avec Microsoft, là, on sort un peu de la track Google, mais on a annoncé que Copilot permettait d'insérer AIRS, Prisma AIRS, notre AI Runtime Security, notre AI Firewall, si on peut l'appeler comme ça, à même Copilot. Mais ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas dans les autres cloud providers. Il y a uniquement Copilot qui permet, pour le moment, d'intégrer Prisma AIRS pour pouvoir faire de la protection contre le DLP, tu sais, détection de DLP, protection contre le prompt injection. C'est des affaires que les autres ne font pas pour le moment. Fait que c'est notre équipe qui s'arrange pour coordonner toutes ces choses-là. Puis là, une fois que c'est fait, parce que, tu sais, nous, on a un rôle d'influence sur les équipes produits. Donc, on est capable de dire, ben voici la direction d'un cloud provider. Voici ce que des clients demandent. Puis, voici le marché qui pourrait être bénéfique pour la compagnie. Puis, par la suite, ben on s'arrange pour travailler avec les équipes produits pour qu'ils le fassent. Mais ce n'est pas mon équipe qui le fait. Nous, on est plus des enablers. Là. On s'assure de mettre les...
Ça fait la transition entre les deux, entre l'univers puis... C'est intéressant que tu ramènes le AI parce que vous avez d'excellents produits.
Oui.
Les grands cloudeurs ont d'excellentes offres de ce côté-là, mais ils ont des offres AI, ils n'ont pas des offres qui vont venir protéger le DLP, la fuite c'est d'information, ça. Le prompt injection, tout ce qui vit là-dedans que on s'énerve beaucoup dans les médias.
Oui.
Ben, c'est les grands, ce grand monde-là sont un peu moins fort dans cet univers-là et ont effectivement besoin d'un support et d'ajout de différents créneaux pour limiter les problèmes dans lesquels on s'en va.
Puis tu sais, le principal enjeu au niveau de l'AI, c'est vraiment d'avoir une consistance dans tes résultats. Tu sais, je te dirais que tu regardes n'importe quelle preuve de concept au niveau de l'AI qui arrive aujourd'hui, c'est tout le temps ça l'enjeu numéro un. C'est est-ce qu'on a des résultats constants à chaque fois qu'on fait ce type de demande-là? Parce qu'à un moment donné, c'est une question de confiance. C'est pas très déterministique, l'AI. Tu sais, un formulaire web, tu remplis le champ nom, prénom, adresse, tu fais save, ça va tout le temps le sauver à la bonne place, de la bonne façon. L'AI, quand tu commences à dire ça, il faut que tu déduises, puis que tu raisonnes, puis que, ah ben, tu sais, il y a tout le temps des risques que ça ne marche pas. Mais ça, c'est tout le temps l'enjeu numéro un. Mais c'est quoi l'enjeu numéro deux? C'est la sécurité. Fait qu'une fois qu'on a réglé, là, puis c'est un problème qui se règle. On a juste besoin de trouver les bons modèles, les bons prompts, la bonne façon de segmenter l'application. Mais une fois qu'on a réglé ça, ben, le deuxième plus gros enjeu, c'est la sécurité. Donc, tu sais, l'opportunité de. Pour moi, maintenant, dans mon nouveau rôle, c'est de travailler main dans la main avec les quatre cloud providers, avec Palo, qui est leader dans ce segment-là. Écoute, c'est extraordinaire comme opportunité. Là. C'est vraiment très enrichissant.
Oui, c'est intéressant parce que ça permet aux ces grands clouds-là de se concentrer sur le développement du AI, qui est dans le fond, qui essaie de devenir leur core business. Et Palo vient se joindre à ça et en déchargeant le volet sécurité d'eux autres, fait qu'ils peuvent concentrer sur les modèles frontières et vous autres arrivez à côté, on va protéger vos modèles frontières avec notre technologie qui était un peu indépendante de vos modèles frontières, mais quand même rajoute que vous avez moins de temps à consacrer. Là.
Ah, clairement. Tu sais, ça va loin. Hein? En ce moment, tu sais, avec la situation géopolitique, appelons-la comme ça, il y a un gros intérêt. Tu sais, il arrive deux choses en même temps. Il y a un intérêt énorme pour les AI. Toutes les compagnies veulent y aller. Puis le contexte sociopolitique ou géopolitique, comment c'est quoi le métier qui est socio... whatever.
Whatever.
Tu sais, j'ai pas d'expertise là-dedans. Ce que j'ai de l'expertise, c'est de dire, OK, les clients, ils veulent avoir un cloud souverain-ish ou ils veulent avoir une meilleure indépendance face à tout ce qui pourrait... peut-être, possiblement ou pas arriver. Donc, et garder le contrôle sur leurs données et les AI en même temps. Donc, c'est super intéressant ce que Palo est capable de faire aujourd'hui avec ça. Parce que oui, on est capable de le faire on-premise, on est capable de le faire dans les clouds, mais là, de plus en plus, les clouds souverains prennent l'avant-scène. Ça, on va pouvoir en parler dans un autre podcast. J'ai hâte de discuter là-dessus parce que je pense que tu es vraiment plus ferré que moi sur le sujet. Mais l'opportunité est là.
Absolument, puis c'est bien que tu le fasses comme ça parce que c'est un beau closure sur ce volet-là, sur lequel justement ta transition vers Palo, tout le plaisir de jouer dans cet univers-là et de rebondir sur notre prochain sujet qui va être essentiellement la souveraineté numérique, qui va être sublime.
Mais je suis très content que là d'être revenu avec toi pour faire des podcasts, ça me manquait, j'adore ça.
Ouais, c'est un moment super trippant, puis bon, ben, on se dit à la prochaine.
À la prochaine.